9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h pour un sujet de vie quotidienne. Alors je vous demande de regarder autour de vous, à la maison, au bureau, dans votre voiture, où que vous soyez, et de scanner tous les objets en plastique qui vous entourent. On pouvait même vous amuser à mettre des étiquettes sur tous ces objets chez vous et vous demander s'ils vous sont indispensables ou s'ils n'auraient pas pu être remplacés par du bois, par du verre, par du métal, de la vaisselle au mobilier. En tout cas, on vit dans le plastique aujourd'hui, c'est flagrant, Julie. Hein.
Et si vous avez des enfants, alors tous les jouets, les Lego et tout ça, c'est du plastique.
Mais complètement.
Tous les jouets d'enfants.
Alors,
hein.
C'est une matière facile, légère pour les enfants, justement, incassable, une matière dont on a su, il y a 50 ans, nous montrer qu'elle était aujourd'hui indispensable à nos vies. Hélas, trop polluante. Un tiers des plastiques ne sont pas recyclés. Ils finissent dans la nature ou dans nos océans. Comment nous désintoxiquer du plastique? Eh bien, c'est le sujet du jour qui nous amène jusqu'à 11h sur Europe 1, ma chère Julie.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et on attend vos témoignages du quotidien. Hein. Pour le coup, le standard est ouvert.
Le 39-21, on vous attend effectivement.
Et le hashtag Europe 1, évidemment aussi pour vous mobiliser. Bonjour Hélène de Vestel.
Bonjour.
Vous êtes présidente d'une entreprise de sensibilisation au zéro déchet qui s'appelle Edeni. On met ce sujet à la une finalement à l'occasion d'un anniversaire. 2 ans après l'interdiction des sacs plastiques dits à usage unique qu'on nous distribuait comme ça à l'envi dans les grandes surfaces. Le 1er janvier 2017, on interdisait ceux pour les autres usages, les fruits, les légumes, les poissons, les produits en vrac. Mais dans les faits, combien d'entre nous continuent d'abord de demander un sac en plastique chez les commerçants et d'en obtenir ?
On en parlait encore ce matin. Le problème, c'est effectivement, d'une part, la méconnaissance des alternatives qui existent, bien souvent, et de se rendre compte qu'on peut s'en passer dans la plupart des cas de consommation quotidienne. Et j'exclus là, bien sûr, certaines industries du BTP, du médical, dans lesquelles on n'a pas d'alternative satisfaisante pour le moment sur le plastique. Exactement. Néanmoins, sur beaucoup de sujets de notre consommation quotidienne, il existe des alternatives déjà. Ensuite, il y a quand même un manque de considération, de droit, de légal qui fait que les industriels pourraient exclure totalement la possibilité de mettre en vente et de mettre à disposition des plastiques. Dans le cas justement des sacs plastiques à la caisse, c'est quand même incroyable de dire on les a retirés, mais maintenant on peut les acheter.
Ben oui.
Alors que si on ne pouvait pas les acheter, on ferait autrement. Et là, pour le coup, on n'oublierait pas son sac en tissu.
Et là, pour le coup, on est tous concernés. Alors, il y a peut-être des citoyens plus vertueux, tant mieux pour eux, mais enfin, moi, ça m'arrive aussi tout le temps d'acheter des sacs plastiques. Alors, la grande distribution, quand même, s'est mise à la page parce qu'elle met en circulation aujourd'hui 1 milliard de sacs, mais réutilisable. Donc c'est du plastique qui a été recyclé.
Alors, comme le dira certainement Nathalie Gontard après,
chercheuse à l'INRA,
en fait, le plastique recyclé, c'est un peu un paradoxe. Ça n'existe pas vraiment dans le sens où on ne peut pas recycler à l'infini un plastique. Donc forcément, c'est 1 ou 2 fois, voire jusqu'à 5 fois dans le meilleur des cas, mais ensuite il est plus recyclable. Et puis surtout, on doit toujours réintégrer de la matière neuve. Donc finalement, c'est pas vraiment une solution. On a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube avec un titre un peu provocateur qui s'est dit « Pourquoi ne pas recycler ?» qui montre à quel point on utilise des ressources, on gâche des ressources qu'on a déjà puisées, extraites de la terre, des camions qui se sont déplacés, on a brûlé du carbone pour aller fabriquer et mettre à disposition ces produits qu'ensuite on jette et on va réutiliser des camions, des infrastructures, des usines, pour recycler tout ça, alors que dans tous les cas, ce ne sera pas pérenne non plus.
Ouais, eh bien, nous allons recevoir dans un instant une chercheuse à l'INRA qui s'est spécialisée dans la recherche sur les emballages alimentaires, justement, comment en trouver des alternatives. On va vraiment faire l'aller-retour entre ce que vous vivez au quotidien, ce qu'on peut imaginer dans le futur pour se désintoxiquer du plastique. Ça, c'est une phrase que dit souvent Isabelle Autissier, grande navigatrice qui est présidente de WWF France et qui sensibilise aussi à ce sujet-là. On se retrouve, Hélène de Vestel et chers amis auditeurs, avec vos témoignages. N'hésitez pas, on fait le tour de la question et Julie et moi-même nous attendons.
Au 39-21. 2 ans après l'interdiction des sacs plastiques dans les magasins, qui est loin d'être effective d'ailleurs, on s'intéresse au plastique, à ce matériau facile, pratique, léger, mais si polluant et qui a envahi nos vies. Wendy Bouchard.
Avec nos invités pour nous éclairer, et l'un des combats du gouvernement Macron, c'est à l'horizon 2025 de recycler 100% des plastiques. Alors Hélène de Vestel, présidente d'Edeni, entreprise de sensibilisation au zéro déchet, vous commencez à nous dire que finalement, c'était pas tout à fait le bon débat. Et Nathalie Gontard, chercheuse à l'INRA, ne pourra pas nous dire le contraire, spécialisée dans la recherche sur les emballages alimentaires. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Expliquez-nous d'abord pourquoi le plastique ne peut pas être recyclé comme le verre à l'infini.
Je pense qu'il faut tout d'abord revenir sur la définition du mot recyclage. En fait, le recyclage a été mis en avant, certes par le gouvernement, mais tout d'abord par l'Europe dans le cadre d'une stratégie en faveur de l'économie circulaire et qui a été adoptée en 2015. Mmh. Mais le recyclage, ça veut dire qu'on peut le recycler infiniment, ce qui veut dire qu'on part d'un matériau et comme on est capable de le retransformer exactement dans le même matériau, il n'y a pas de déchets, sauf que le plastique se dégrade. Donc le verre, le métal, etc. sont réellement recyclables. Le plastique, lui, se dégrade. C'est-à-dire que le plus souvent...
On vous a perdu Nathalie, c'est dommage, mais on va aller revenir tout de suite. Oui, ça y est.
Moi, voilà. Je vous entends très bien.
Voilà. Voilà, vous pouvez revenir. donc vous nous disiez que, par exemple, le verre... Non, c'est bon. Le verre, le métal sont recyclables à l'infini, mais pas le plastique.
Mais pas le plastique, puisque le plastique se dégrade. Et souvent, ce que l'on entend par recyclage, c'est par exemple une bouteille qu'on va transformer en pull. Ça, ce n'est pas du recyclage, c'est du décyclage.
Ah,
un petit peu comme le papier, où on peut recycler, entre guillemets, mais ce n'est pas un vrai recyclage. Le papier va se dégrader. Et ensuite, au bout de 2-3 réutilisations, retransformations, on ne pourra plus l'utiliser car il a été dégradé. Mais à la différence, le papier ne pose pas problème. Parce que le papier, lui, va pouvoir ensuite réintégrer la belle boucle de recyclage de toute matière organique qui consiste en une biodégradation et une photosynthèse. Donc il pourra être, en effet, resynthétisé ensuite, impact sur l'environnement. Alors que le plastique va se transformer en particules fines qui portent toutes nos inquiétudes sur les aspects de toxicité que portent toutes les nanoparticules.
Bah voilà, les particules fines qui sont invisibles à l'œil nu et que nous trouvons dans l'atmosphère, dans nos océans, dans nos poissons, dans notre sable et qui nous empoisonnent à petit feu. Sachant que 3/4 des plastiques usagés vont finir quand même leur vie dans nos terres, dans nos eaux, dans nos organismes. Hélène de Vestel, avec votre association, vous avez fait une grande étude pendant 6 mois pour connaître justement le parcours de ce plastique, son utilisation depuis qu'il est arrivé dans nos sociétés.
Exactement. Dans le but de pouvoir illustrer qu'on pouvait véritablement vivre pendant un an avec moins d'un litre de déchets résiduels annuels. Donc ça, c'est l'intégralité pour ceux qui nous écoutent. L'intégralité
de
nos déchets résiduels, donc non compostables, non recyclables, tiennent dans un bocal d'un litre.
Ça, c'est les vôtres ?
Ça, ce sont les miens.
C'est vos déchets qui tiennent dans un petit pot comme ça ?
Exactement.
Et vos déchets vraiment non recyclables, non compostables ?
Exactement. Donc à l'exclusion de quelques bouteilles de vin en verre, qui ne sont pas encore consignées malheureusement, et à l'exclusion de quelques papiers, cartons...
Qu'est-ce que vous avez là-dedans, alors, par exemple, qui n'a
pas
été...
Malheureusement, il va rester quelques sachets de thé. Quand j'avais pas prévu ma boule à thé en allant dans un endroit et que j'avais vraiment très froid et que je pouvais pas m'en passer, enfin en tout cas c'est ce que je pensais. Quelques tickets de théâtre qui bien souvent sont un peu plastifiés ou ont une bande qui ne va pas être recyclable, une carte bleue qui était arrivée à expiration, quelques tickets emballages plastiques effectivement qui vont être trop fins pour pouvoir être mis dans la poubelle de recyclage. Et quand bien même ils seraient mis dans la poubelle de recyclage, on essaie au sein du collectif EDENI de vivre véritablement sans plastique, en tous les cas sur notre consommation quotidienne. Parce qu'il faut savoir que sur les 100 milliards de tonnes de déchets plastiques qui ont été produits depuis à peu près 120 ans son invention, ce sont plus de 60% qui sont devenus des déchets. Et à l'intérieur de ces 60%, donc ceux qui ne sont pas encore utilisés sur des cadres de fenêtres ou dans des vieux tupperwares de grand-mère qui sont abîmés et que je vous déconseille de garder au niveau santé, eh bien on se retrouve avec plus de 30% statistiquement de nos emballages qui vont se retrouver à l'océan. Pourquoi ? Parce que quand vous avez l'impression pourtant de faire un bon geste et de mettre dans la poubelle de recyclage votre plastique, bien souvent, soit il ne va pas être recyclable dans tous les cas, et encore une fois, recyclable, entre guillemets, puisque c'est un mot plutôt galvaudé, comme nous l'a rappelé Nathalie dans le contexte du plastique. Et puis sinon, il va s'envoler, il va terminer dans une décharge, il va être décomposé, il va arriver dans un caniveau. Et tout ça se retrouve dans l'océan. Et chaque seconde, ce sont pas moins de 634 000 kilos de déchets qui arrivent dans nos océans. Je le répète, chaque seconde, l'équivalent d'un camion benne et qui entraîne la mort de millions et de millions d'êtres vivants par an, sans compter nous-mêmes.
Oui.
Puisque la pollution est la première cause de mortalité.
Complètement. Il y a des pays moins vertueux que d'autres, des entreprises moins scrupuleuses que d'autres. On sait qu'il y a 8 fleuves, notamment, qui alimentent avec la pollution dans le monde entier, en Asie, en Afrique, cette pollution. Avant une petite page de publicité, Nathalie Gontard, est-ce que vous pouvez nous parler quand même de ces alternatives? On va y revenir, évidemment, mais des sacs plastiques qu'on dit, par exemple, biodégradables. Alors, on nous les distribue bien, ils ont l'apparence du plastique, je pense que c'en est en partie, mais quelle est leur vertu, par exemple? Et pourquoi ne pas plus les diffuser?
Je pense que le meilleur déchet plastique, on a déjà dit, c'est le déchet plastique qui n'existe pas. Et donc, la meilleure alternative, là aussi, Hélène de Vestel l'a dit, c'est d'essayer de s'en passer. Après, il y a des tas de matériaux biodégradables traditionnels quand on utilise du papier, du carton, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a énormément de matériaux qui sont développés. Dans l'idée, justement, ce sont des matériaux qui ne posent pas le risque de produire en fin de vie des particules fines, quel que soit leur devenir. Donc ce sont des matériaux qui sont biodégradables, entièrement biodégradables en conditions naturelles, ce qui ne les empêche pas d'être recyclables, parce que souvent on oppose biodégradables et recyclables, et ça c'est une très très grosse erreur.
Biodégradables, c'est-à-dire que si on les laisse dans la nature, ils vont se désagréger tout seuls.
Vous les laissez dans votre jardin, en 2-3 mois ils ont disparu, comme n'importe quelle matière organique.
D'accord.
Et ensuite, ils n'utilisent pas de ressources pétrochimiques parce que le problème, c'est que le plastique, quelque part, il a deux options en fin de vie. Soit il termine en particules fines, soit il termine en CO2 lorsqu'il est incinéré, transformé en carburant, etc. Donc, on libère aussi du CO2. Donc, les matériaux que nous développons, nous, ce sont des matériaux qui sont issus de ressources agricoles, mais attention, non alimentaires, parce que l'idée n'est pas non plus de rentrer en compétition avec les ressources alimentaires, alors que l'on s'inquiète déjà sur la façon dont on va nourrir le monde dans 50 ans.
En effet.
Donc
oui.
On utilise des résidus uniquement non alimentaires.
Ok, bon, on
donc
en reparlera.
Ce sont par exemple des effluents liquides, des pailles, des ferments de vigne, etc.
Et qui sont bio pour le coup, végétaux aussi pour la plupart. Nathalie Gontard, chercheuse à l'INRA, qui travaille au quotidien sur de nouveaux emballages, de nouveaux conditionnements alimentaires pour sortir progressivement du tout plastique dans nos sociétés. C'est le sujet qui nous réunit jusqu'à 11h. Dites-nous comment vous avez essayé d'obtenir un modèle un peu plus propre, plus vertueux à la maison. N'hésitez pas, parce que vos témoignages sont toujours éclairants. Et ma chère Julie, vous le constatez au quotidien avec moi. À tout de suite.
Et je rappelle le standard, le 3921.
Europe 1.
Le tour de la question sur le plastique. Objectif 100% de plastique recyclé, hein, nous annonce le gouvernement. Alors, en 2025, mais pourra-t-on vivre sans plastique? Ça, c'est autre chose.
Oui,
Wendy Bouchard.
Nathalie Gontard est avec nous par téléphone depuis Montpellier, chercheuse à l'INRA. Hélène de Vestel, présidente de DENI, une entreprise de sensibilisation au zéro déchet, nous éclaire aussi avec expertise sur le sujet. Alors, on le disait avec l'une et l'autre, le recyclage n'est pas la panacée. Pourquoi le gouvernement met-il cela en avant? Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience dans une lutte dont il n'a peut-être pas étudié justement pas toutes les limites?
Non, je ne pense pas qu'ils n'ont pas étudié. Il y a suffisamment d'expertise qui peuvent les conseiller. En revanche, c'est soumis à des considérations économiques qui passent encore une fois au-delà des considérations de santé, d'écologie, d'éthique et de vraiment véritablement notre survie. Parce que là, on parle de l'intoxication de nos océans, du fait qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons et la biodiversité qui se meurt totalement, les coraux, etc. dans les océans, notamment dû aux déchets plastiques qu'on y met. Et tout ça, c'est notre potentialité à respirer, rien de moins, qui est malheureusement mise à défaut. Et ça, il y a encore des lobbies industriels qui vont pousser pour faire du plastique à outrance. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des considérations factuelles, que pour le moment, on n'a pas encore d'alternative sur certains sujets, que ce soit médical ou BTP.
Ça fait 60 ans qu'on a massifié le plastique et qu'on nous a dit que c'était le meilleur des matériaux
possibles
aussi.
Exactement, revenir à la consigne, par exemple, ça demandera des infrastructures, une logistique qui est à remettre en place et qui prendra plusieurs années. Comme le disait Nathalie Gontard, il y a des chercheurs qui travaillent sur des alternatives quand on ne peut pas les remplacer. Mais encore une fois, rappelons-nous que la première des solutions, c'est de réduire notre consommation. On doit réduire drastiquement notre consommation au point de vue quantitatif et ensuite l'améliorer au point de vue qualitatif.
Alors qu'en France, nous consommons par exemple 25 millions de bouteilles en plastique par an, 22 000 tonnes de plastique qui finissent dans l'océan tous les jours. Mais il y a une filière derrière aussi, vous en parliez, le plastique est une source de richesse et d'emploi, 1,5 million d'emplois en Europe. Emmanuel Guichard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes monsieur délégué général d'Elipso. Vous travaillez pour, avec votre entreprise dans l'emballage plastique, plastique rigide, plastique souple. Alors, évidemment, je ne vais pas dire que vous êtes mis en accusation parce qu'on essaye d'avancer ensemble, justement. Mais est-ce que pour vous, le plastique est une filière d'avenir? Comment vous sentez les années qui viennent?
Ah oui, le plastique reste une filière d'avenir parce que d'abord le plastique il apporte de nombreux bénéfices aux citoyens. Là pour l'instant dans l'émission on n'en a pas trop parlé, mais effectivement le plastique c'est une matière qui a des propriétés très particulières et qui apporte beaucoup d'avantages.
Par exemple,
tout simplement si vous faites du vélo, votre casque de vélo il est en plastique. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est léger et surtout c'est très résistant. Si vous chutez, eh bien le casque il va amortir le choc. Il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. Vous avez, si vous prenez un avion, l'avion, en majorité, il contient du plastique. Les voitures, on en rajoute de plus en plus parce qu'en allégeant l'avion ou la voiture, eh bien évidemment, on va utiliser moins de carburant et on va pouvoir avoir notamment une consommation de carburant bien inférieure.
Mais est-ce que vous, par exemple, vous vous mettez un petit peu dans le sens de la marche, en employant plus de plastique recyclé pour créer ce que vous créez au quotidien?
Oui, bien évidemment, toutes les entreprises qui produisent du plastique et de l'emballage plastique s'engagent à utiliser de plus en plus de matières recyclées parce que c'est tout simplement du bon sens. Hein. Le plastique recyclé, il a des avantages absolument indéniables qui sont donc de réduire l'utilisation de ressources naturelles. Ça permet d'éviter le gaspillage et de limiter la pollution. Un exemple assez clair, c'est justement sur la matière dont sont faites les bouteilles et une partie des emballages qui est le PET. Eh bien, l'utilisation de PET recyclé, c'est 3 fois moins d'émissions de CO2 et 3 fois moins d'énergie non renouvelable pour sa production. Donc, c'est clairement une des solutions pour rendre tout cet univers du plastique beaucoup plus recyclable et durable.
Je vais vous opposer dans un instant Fabienne qui nous appelle au 3921, mais je voudrais faire réagir Hélène de Vestel sur le sujet. Avec depuis le 1er janvier une mesure qui est appliquée, un bonus-malus sur les emballages plastiques pour inciter à choisir du plastique recyclé, pour renforcer peut-être aussi les filières du recyclage. Vous parlez quand même de ces lobbies importants. L'idée c'est de taxer les produits fabriqués à partir de plastique non recyclé et de détaxer les produits en plastique recyclé. C'est-à-dire que si vous trouvez une bouteille d'eau minérale en plastique recyclé, elle vous sera 10% moins chère qu'une autre bouteille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mesure n'est pas très suivie parce que d'abord, les industriels ne sont pas obligés de le faire. Et puis, il n'y a pas de label qui vous indique que c'est plastique recyclé. Donc, c'est bizarre. On a toujours l'impression qu'on avance, mais qu'en même temps, on ne donne pas toute la transparence aux consommateurs sur le sujet.
Non, exactement. Et puis surtout, on se trompe de combat. C'est-à-dire qu'on essaie, après avoir fait 20 pas en arrière, de faire 5 petits pas en avant. Mais on fait 20 pas en arrière quand on met sur le marché des produits plastiques. Et encore une fois, le recyclage n'est pas la solution. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à limiter l'utilisation du plastique sur tous les domaines qui sont gigantesques sur lesquels on peut les éviter. Par ailleurs, il existe des casques vélos en carton extrêmement dur, solide. Oui, mais vous savez, du carton qui a été vraiment agrégé et mis en tellement de couches, qui est tout à fait aussi efficace, qui a été testé, qui est même vendu pour les enfants. Et puis, quand bien même on sortirait des quelques exemples qui sont toujours mis, comme les encadrures de fenêtres ou tout ça, bon, pourquoi pas?
C'est-à-dire que l'intérieur des voitures, vous voulez l'imaginer comment, autrement qu'en plastique aujourd'hui?
Alors, par exemple, l'avion, bon, on sait que déjà, c'est un non-idéal de pouvoir avoir des avions plus légers, puisqu'il ne faudrait ne plus avoir d'avion.
Ah bah oui,
alors,
bien sûr. Mais,
mais évidemment,
soyons réalistes.
Évidemment, quand on sort de quelques exemples comme ça, où on voit qu'on n'a pas d'alternative réaliste, alors là, pourquoi pas? Ok, prenons du plastique recyclé, essayons de faire du bonus-malus. En revanche, il y a tellement d'autres domaines sur lesquels c'est une absurdité de continuer d'utiliser du plastique. Et là, on invite, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait avec toutes les organisations et les individus qu'on accompagne, à sortir du cadre, à changer de paradigme, à être beaucoup plus créatif et à avoir une valeur réellement ajoutée, réelle, en termes de santé, écologie, éthique.
Sur la bouteille en plastique, par exemple, alors que le verre se recycle à l'envi, revenons aux consignes, la gourde en alu, voilà.
Gourde en inox.
En inox,
française, quetch.
C'est moins polluant. Merci, je vais donner la parole à Fabienne dans un instant. Françoise, Martine, Monique sont aussi au standard pour réagir au 39-21 avec Hélène de Vestel, avec Emmanuel Guichard qui représente Elipso, entreprise d'emballage plastique, avec nous jusqu'à 11h sur Europe 1.
Le recyclage du plastique serait-il un mirage finalement? Nous parlons du plastique et de son avenir, si je puis dire, avec Wendy Bouchard et ses invités. On a un tweet, là, tiens, d'Élodie, qui nous dit, comme le disait Elmer, je sais pas qui c'est, le plastique, c'est fantastique. Oui, c'était un slogan à l'époque. Je multiplie les petits gestes au quotidien. Boycott du suremballage, capsule Nespresso, je cuisine du fait maison, j'emballe le goûter dans une boîte réutilisable. C'est bien ça comme comportement.
Eh bien voilà, nous avons un autre comportement affiché au standard d'Europe 1, c'est celui de Mounia. Mounia au 3921 au standard d'Europe 1. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre avec une belle initiative qui a eu des effets très concrets pour la politique qui s'annonce, parce que vous représentez une association qui s'appelle Bas les Pailles.
Tout à fait, et on va parler de petits objets en plastique qui ne sont pas recyclables. Donc,
et qui ne sont surtout pas vraiment indispensables à nos vies. Hein. Franchement, les pailles, les touillettes, vous en avez dans votre petite boîte
J'en ai effectivement.
Hélène de Vestel, c'est le petit pot dans lequel vous avez dû mettre vraiment les composants qui n'étaient pas recyclables. Pourquoi cette paille ne l'était pas?
Eh bien, cette paille ne l'est pas. Mounia va nous l'expliquer, on se connaît très bien là-dessus. Mais surtout, on a une facilité déconcertante à pouvoir refuser une paille sur un cocktail, même dans un mojito, n'importe. Vous arrivez dans un bar, vous demandez sans paille, mais parfois, le serveur, le temps d'aller dans les cuisines et de revenir, a oublié et vous sert la paille. Et lorsqu'il refuse de dire « Non, s'il vous plaît, reprenez-la, j'en ai pas besoin », eh bien, on se retrouve avec une paille dans son bocal. Et il est toujours intéressant de se rendre compte à quel point, après, ça potentiellement se retrouver dans les narines d'une tortue. On a tous vu cette vidéo.
Ces images terribles. Et vous avez été à l'initiative de cette association qui a fait des émules, on va en parler. À quel moment avez-vous eu cette envie de vous engager sur ce sujet, Mounia?
On a commencé en avril 2017, donc presque 2 ans, suite effectivement à la vidéo d'une tortue de mer au Costa Rica qui a une paille en plastique coincée dans le nez, et de 2 pailles servies dans mon diabolomante. Et je me suis dit, je les ai pas demandées, j'en ai pas besoin, et que va être leur fin de vie? Et donc ça a été le début d'une démarche, d'une pétition pour demander qu'à l'instar des gobelets plastiques, des cotons-tiges, les pailles aussi soient réglementées en France. Et on a recueilli sur la pétition sur change.org près de 180 000 signatures à ce jour. Nous avons accompagné la ville de Paris qui, dans ses établissements municipaux, ne va plus utiliser de pailles et de touillettes. Et nous attendons le décret d'application de la loi Egalim votée en novembre en France, qui concerne l'interdiction de certains petits objets plastiques, dont les pailles et les touillettes.
Voilà, donc qui devrait être effective normalement à l'horizon 2020.
Voilà, la question c'est de se dire qu'est-ce que nous, comme le disait Hélène, en tant que consommateurs, consommatrices, on peut faire. Donc regarder cette petite paille en plastique qu'on ne voyait pas, qu'on ne voit pas, et se dire je peux la refuser, et autour de moi, quels sont les autres petits objets plastiques dont je peux me passer ou trouver une alternative, et par exemple les couverts, parce que quand on fait des ramassages, des nettoyages de petits objets en plastique, on trouve des morceaux de couverts, des morceaux de paille qui, une fois qu'ils sont par terre, vont se retrouver dans la Seine ou dans la Garonne, et voilà. Ensuite direction les océans. Et c'est comme ça que ça se retrouve tout de suite, il n'y a plus rien pour les arrêter, ça se retrouve sur les plages, et les pailles font partie des 5 objets les plus ramassés sur les plages.
Et ben voilà, le circuit que vous avez bien dessiné, Mounia, pour l'association Bas les Pailles, on vous félicite pour cet investissement. Je vais faire réagir Emmanuel Guichard, délégué général d'Elipso, les entreprises de l'emballage plastique, parce que vous disiez le plastique a beaucoup de vertus, et il est important dans nos vies, très bien, mais on est d'accord que les pailles, les cotons-tiges en plastique, les touillettes, tout ça n'est pas du tout indispensable et qu'on peut plus que s'en passer, vraiment les bannir.
Les pailles, c'est vraiment un très bon exemple, en fait, parce que les pailles, c'est un produit, effectivement, dont on peut se passer. Et pourquoi est-ce qu'on peut s'en passer? Parce qu'on peut concevoir des produits, des emballages, qui n'ont pas besoin de pailles. C'est vraiment effectivement.
On a appris à boire aussi dans des verres sans paille, hein. Donc ça c'est super fou dans les cocktails. Et...
Ça effectivement c'est l'aspect un peu cocktail. Mais pour moi la paille c'est vraiment le bon exemple de certains produits avaient été pensés avec, on va dire, plusieurs parties dans l'emballage en fait. Vous aviez l'emballage central et puis après vous aviez la paille pour le consommer, vous aviez l'étui de la paille et tout ça. Oui. Tout toute la démarche...
Pour les petites briques, notamment de jus d'orange.
Par exemple. Ouais. Et toute la démarche d'avenir, justement, ça fait partie de nos responsabilités que ces produits ne puissent plus partir dans l'environnement et donc de les concevoir pour qu'au moment que le consommateur va utiliser le produit, ce petit bout de plastique, il n'ait aucune chance de partir.
Voilà, mais je vais vous donner un autre exemple, Emmanuel Guichard. À Bordeaux, par exemple, dans les cantines scolaires, ils ont remplacé, ils sont revenus en arrière finalement, toutes les assiettes qui étaient en plastique par des assiettes en faïence. Ils ont remplacé les verres en plastique par des verres en verre. Voilà, conscients aussi de cet environnement de pollution avec ce plastique qui étouffe aussi notre faune, notre environnement. Là, je fais appel aux citoyens que vous êtes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, l'histoire de Bordeaux, elle est assez intéressante parce qu'en fait, au début, tout était on était sur de la faïence. Mmh. Et en fait, c'est la municipalité qui a demandé de tout passer en plastique pour une raison très simple, c'était par rapport aux salariés.
Voilà, moins lourd à porter.
Dans la cantine.
Exactement. Voilà.
Et c'était beaucoup plus lourd à porter. Et en fait, la mairie de Bordeaux, du fait de leur mode de gestion, avait un personnel, notamment très. Un personnel pour qui. Tous les aspects de poids de la vaisselle étaient complètement problématiques.
On est d'accord. Mais en tout cas, ce retour en arrière est intéressant. Voilà où ça va dans
c'est un retour en arrière. Vous remarquerez que ce n'était pas des assiettes jetables, hein, c'était des assiettes qui étaient réutilisables. Mmh. Donc on était déjà sur un produit qui était parfaitement maîtrisé. Mais pour parler un peu de la conception en fait, parce que je pense que c'est là-dessus.
Eh ben ça sera juste après la pause. Vous gardez vos arguments et on vous retrouve Emmanuel Guichard sur la conception aussi du plastique tel que vous l'a mené en 2019. Hélène de Vaisselle reste avec nous. Nathalie Gontard, chercheuse à l'INRA, va réagir également. Je voudrais donner la parole à Fabienne qui nous appelle de l'Est de la France. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, le tour de la question sur le plastique. Comment s'en passer? Comment sortir du tout plastique? Wendy Bouchard.
Se désintoxiquer du plastique, car on s'est créé aussi beaucoup de besoins, beaucoup d'indispensables. Hélène de Vaisselle, vous qui travaillez pour sensibiliser au zéro déchet avec Edeni, votre entreprise.
Oui, on s'aperçoit qu'en fait, bien souvent dans des entreprises, ils ont un produit et ils cherchent comment pouvoir l'améliorer. Mais en fait, parfois, il suffit d'avoir le courage de supprimer ce produit qui a créé un faux besoin, quelque chose qui n'était vraiment pas utile et qui ne crée pas de valeur, ni au niveau santé, ni au niveau environnemental, ni au niveau éthique, et d'en faire un autre qui, lui, va pouvoir appeler à une créativité vraiment noble, vraiment saine, et donc ne pas se focaliser sur certains produits, effectivement, où pour le moment, on n'a pas d'alternative. On peut se poser la question, on utilise souvent en Zero Waste les 5 R. Premièrement, refuser ce qui est inutile, ce qui est non sain, non écologique, éthique. Ensuite, ce qu'on a vraiment besoin, et il y en a plein, et Emmanuel en a parlé, évidemment, et on a tous dans ces idées en tête de choses qu'on utilise au quotidien qui soient vraiment utiles, qu'on ne peut pas remplacer. À ce moment-là, on va les réduire. Plutôt que de l'avoir en 2-3 exemplaires, on va l'avoir en une fois. Ensuite, le troisième R, c'est réutiliser, réparer. Ce qu'on a, eh bien, tâchons de respecter cette matière qui a été fabriquée par des artisans, qui a fait déjà plusieurs kilomètres, qui a été extrait de la planète, et de la garder et ne pas faire comme actuellement 99% des ressources qui sont extraites de la planète deviennent des déchets en moins de 42 jours. Le quatrième R, c'est évidemment recycler, composter ce qu'on n'a pas pu éviter. Et enfin, le cinquième, eh bien, revendiquer, parce que des convictions qu'on ne peut pas revendiquer, eh bien, c'est comme si on n'en avait pas.
Merci Hélène. Fabienne est avec nous au 3921. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Je ne veux pas écorcher le nom de votre commune. D'où nous appelez-vous?
De Trüchtersheim.
Trüchtersheim, en Alsace, donc.
Voilà, c'est ça, oui.
Dites-nous, ouais. Vous vouliez réagir à ce débat et interpeller notamment Emmanuel Guichard, qui est avec nous pour l'entreprise d'emballage plastique Ellipso. On vous écoute.
Alors, l'interpeller surtout les industriels en général, tout simplement parce que je suis maman, bien sûr, et que, par exemple, en faisant mes courses pour une famille de 4 personnes, en sachant que ça fait... plus de 15 ans qu'on trie, on a 3 composteurs pour vous dire. Évidemment, le verre, le carton, tout ça, tout ce qui est plastique dur, on le recycle totalement. Tous les déchets ménagers périssables donc de nos composteurs, ça, voilà. Et malgré ça, les courses d'une semaine, une personne, nous remplissent en déchets plastiques souples, une poubelle entière, une grande poubelle entière.
Bah oui.
Et Voilà, et ça, mais je trouve ça malheureux. Parce qu'on fait tout ce qu'on peut, on va chez les petits producteurs, donc les emballages ne sont pas en plastique, ils vont dans notre panier, on va chez le boucher, là aussi, c'est ultra limité, pas de sac plastique, etc. Et malgré tous nos efforts, on se retrouve avec une poubelle entière. Donc ça, je trouve ça inadmissible aujourd'hui, et je voudrais vraiment que les industriels...
entendre aussi, bien sûr. Emmanuel Guichard, vous pouvez répondre à Fabienne et vous présenter l'un l'autre. Hein.
Madame, moi j'ai une très bonne nouvelle pour vous,
bonjour,
en fait,
monsieur.
Parce que bonjour madame, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que effectivement le sujet que vous citez, c'est le fait qu'actuellement dans votre commune, dans votre bac jaune, dans votre bac de recyclage, vous ne mettez que les flacons. Puisque la consigne qui vous est donnée par votre commune, c'est de ne recycler que les bouteilles et les flacons.
Oui.
En fait, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, parce que alors l'exemple emblématique, c'est Paris. Depuis le 1er janvier, à Paris, tous les Parisiens et Parisiennes, et tous les gens qui passent à Paris, peuvent mettre dans la poubelle jaune, donc dans le bac jaune, l'intégralité des emballages plastiques. C'est-à-dire que maintenant, le pot de yaourt, les emballages souples dont vous avez parlé, les boîtes d'œufs, le dentifrice, tous vos emballages plastiques, vous pouvez les mettre dans la poubelle, dans le bac jaune, et ils seront ensuite amenés au centre de tri pour être recyclés.
Donc ça fait une belle jambe à Fabienne qui habite en Alsace.
Alors, Fabienne, je ne connais pas, mais je peux vous faire après un retour sur votre commune. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ici la fin de l'année, on aura plus de la moitié de la population française qui sera couverte par ce dispositif, avec le but, c'est qu'en 2021, l'intégralité de la population française sera couverte.
Bon.
C'est pas si simple, c'est-à-dire que effectivement, ça nécessite des investissements au niveau des centres de tri, ça nécessite l'investissement de votre commune. Il y a des soutiens très forts qui sont portés notamment par la société Citeo. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que votre sac poubelle noir qui contiendra les déchets ultimes, alors peut-être des couches, des choses comme ça, il sera tout petit. Et le reste, effectivement, vous pourrez le valoriser et le recycler.
Revenir à ce que disait Fabienne, maman, Maximus aussi, papa, qui nous dit « Difficile, en effet, le plastique, j'ai pas passé le pas des biberons en verre. Maintenant, ils s'en prennent plus, c'est déjà ça. » Mais évidemment, il nous fait une photo avec tout un tas de contenants biberons, des tétines, etc., etc. Vous voulez réagir, Hélène de Vestel, à ce que vient de dire Emmanuel Guichard?
Oui, non, je suis allée discuter avec des employés de centre de tri, effectivement, qui disent qu'en fait, c'est eux qui vont se retrouver avec, avant ce que le citoyen pouvait faire, de limiter les plastiques qui ne sont pas recyclables, qui sont trop fins, trop petits, etc.
Oui.
Maintenant, c'est juste eux qui vont le faire sur le centre de tri, et que dans tous les cas, encore une fois, rappelons-nous que ce n'est pas une solution de dire « Ah, mais c'est bon, on ne le voit plus, c'est caché. » Sauf que ça va se retrouver dans des pays en voie de développement, dans des bidonvilles, et en France, nous, c'est bon, on arrive à le cacher.
Il faut que ça soit une étape, au moins, au mieux.
Évidemment, évidemment, c'est d'abord réduire sa consommation de plastique et ensuite vraiment ce qui reste qu'on n'a pas pu réduire, à ce moment-là, oui, essayer d'en trouver une solution.
Je vous remercie Fabienne pour votre appel.
Je voudrais vraiment que les industriels qui fabriquent les produits que nous achetons ne se sentent pas dédouanés. C'est eux qui sont à l'origine, c'est eux qui demandent aux emballeurs de suremballer deux fois, trois fois tout ça. Donc c'est eux qui sont à l'origine. Ils nous vendent des yaourts, trouvons la solution la plus simple pour éviter les suremballages.
Oui. Merci Fabienne, alors le gros pot de yaourt plutôt que les 4 ou les 6 yaourts individuels par exemple. Merci Emmanuel Guichard d'avoir réagi et témoigné dans cette émission pour l'entreprise Ellipso. Merci, on se retrouve pour quelques instants encore avec Hélène de Vestel et je redonnerai la parole à Nathalie Gontard, chercheuse à l'INRA, pour qu'elle nous explique justement un petit peu les projets d'avenir sur le sujet. A tout de suite sur Europe 1.
Nous parlons du plastique ce matin, le plastique qui envahit nos vies. Un tiers des plastiques ne sont pas recyclés, on en parle avec Wendy Bouchard et son invité.
Alors le gouvernement souhaite que d'ici 2025, 100% de plastique soit recyclé. Le problème, c'est que nous croulons sous le plastique, que le plastique n'est plus la solution et que nous avons des matériaux recyclables à l'envi, notamment le verre et le métal, et que nos invités qui sont sensibilisés sur le sujet nous enjoignent justement à promouvoir aussi les matériaux alternatifs pour progressivement se passer du plastique ou en tout cas, dès que nous le pouvons, pour les choses qui ne sont pas indispensables. Je pense à notre quotidien, Hélène de Vestel, j'imagine que quand vous allez faire vos courses, vous achetez d'abord beaucoup de produits en vrac.
Exactement.
Donc vous arrivez avec votre cabas en tissu, avec plein de petits sacs en tissu, et puis vous faites vos courses comme ça.
Exactement. Donc quand c'est quelque chose que je n'ai pas à avoir besoin toutes les semaines de racheter, eh bien je peux faire de grandes quantités. acheter un petit peu en gros, par exemple, de toutes les poudres que je vais avoir besoin pour faire mon dentifrice ou pour faire ma lessive. Je vais les acheter une fois tous les 6 mois. Exactement.
Ah oui, ouais. Oulala, vous êtes très vertueuse. Ouais, vous faites votre dentifrice.
On a un bootcamp là, qui reprend mardi avec des élèves, des individus, mais vraiment du grand patron du 440 jusqu'à la personne au RSA, jusqu'aux étudiants qui viennent et qui apprennent, réapprennent quelque part, du bon sens, à s'interroger, à exercer son esprit critique et à voir ce qu'on peut faire effectivement et de se dire, c'est pas du tout un retour en arrière, hein. Personne n'a envie de revenir à l'époque.
Mais votre brosse à dents, elle est en quelle matière par exemple?
Ben, ma brosse à dents, elle est alors soit en bambou, mais le bilan carbone d'une brosse à dents en bambou venant de Chine n'est pas top. Mmh. Mais sinon, l'Amazuna fait des plastiques recyclés où on ne change que la tête. Donc, on économise quand même 90% de la ressource plastique recyclée qui se trouve dans sa brosse à dents. Et c'est toujours une meilleure nouvelle que de gâcher encore une fois de la ressource.
Bah, votre exemple témoigne que vraiment pour tous les gestes, les réflexes un peu quotidiens de la vie, il faut s'interroger quoi, sur ce qu'il y a derrière.
Exactement. Moi, je vous encourage à lire vraiment, à se renseigner, à regarder des vidéos, à aller voir des associations. Alors, effectivement, notre association EDENI accompagne aussi, alors que ce soit du côté SAS pour les entreprises ou vraiment pour les individus avec l'asso. Puis, on a une chaîne YouTube, on a des posts quotidiens Instagram où vraiment, on réapprend, on s'interroge sans tabou et avec débat sur comment réduire notre consommation d'abord et puis ensuite l'améliorer pour améliorer notre qualité de vie tout en économisant de l'argent et en vivant en meilleure santé.
Vous feriez ça, vous, Julie, prendre le temps, enfin vraiment tout scruter au quotidien, parce que ça, on a tous envie d'appliquer ce modèle.
Ce sont des habitudes. Hein. Après, ça fait gagner du temps. Ça n'en fait
comme
pas
ça, non.
Ouais, c'est quand même, c'est pas évident. Il faut à la fois normal. Le temps, l'engagement, mais en tout cas, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Déjà, commençons par la base, notamment. On parlait des bouteilles plastiques. Et regardons un petit peu ce que font les autres marques. Il y a notamment une marque qui s'appelle Yumi qui fait des emballages plastiques en bio. Matériaux. Et Nathalie Gontard, on vous retrouve, vous qui travaillez sur tout un tas d'emballages alimentaires, les emballages, en espérant, alternatifs de l'avenir. Est-ce que la France, est-ce que l'État, est-ce que les financements sont suffisants justement pour la recherche sur les contenants en matériaux bio?
Alors, avant de vous répondre à votre question, je voudrais juste revenir sur, insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on met un déchet plastique dans la bonne poubelle qu'il disparaît. Je voudrais aussi rappeler que la production de plastique vierge n'a pas cessé d'augmenter et que souvent on jongle avec les chiffres, mais qu'il faut savoir qu'on utilise chacun l'équivalent de notre poids corporel en moyenne sur Terre par an de plastique. En Europe, c'est plus de 80 kg par an et par personne. Qu'en une vie, nous rejetons 5 tonnes de déchets plastiques qui vont persister 100 à 200 ans. Ça, c'est très important, que jusqu'à présent, nous avons accumulé 15 tonnes par kilomètre carré de plastique sur Terre et que chaque habitant dispose déjà d'une tonne de déchets plastiques sous ses pieds qui peut être utilisée et qui est stockée dans les stations d'enfouissement et qui peut être utilisée pour le recyclage. Ouais. Donc, je voudrais juste mettre...
Évidemment, ce panorama fait froid dans le dos.
Voilà. Je pense qu'il faut quand même expliquer ça parce que... toutes ces actions sur le recyclage ont tendance à masquer tous ces faits et qu'il ne faut pas que parce qu'il y a des efforts sur le recyclage on se dise que justement on a résolu le problème des déchets plastiques.
Alors,
ce n'est pas vrai.
Il y a des efforts sur le recyclage, mais est-ce qu'il y a des efforts aussi pour la recherche pour les méthodes alternatives au plastique?
Oui, tout à fait. Il y a des efforts, il y a des investissements par le gouvernement français, il y a aussi beaucoup d'investissements à l'Europe. Et moi, je voudrais aussi saluer tous les efforts de l'Europe pour que ces investissements soient faits à l'international. Parce que ces problématiques de déchets, le déchet ne s'arrête pas à nos frontières. Et donc, il est bien évident que ces plastiques que nous avons commencé à utiliser il y a une cinquantaine d'années, dans 100 ou 200 ans, se retrouveront sous forme de nanoparticules et pourront diffuser n'importe où. Et donc là, il n'y aura plus de frontières. Donc, il y a énormément d'efforts pour développer des projets de recherche et de développement avec tous les autres pays, et notamment avec des pays comme la Chine, l'Inde, etc.
Oui.
Donc ça, c'est très important. Et peut-être aussi un autre aspect, souvent un domaine d'application que l'on oublie, c'est celui des vêtements. Actuellement, 75% de nos vêtements sont en fibres synthétiques, et il ne reste plus que 25% de fibres naturelles. Or, on sait que ces vêtements, au cours du lavage, vont relarguer très, très, très rapidement puisque ces fibres sont déjà sous forme... En fait, le plastique, là, il est déjà sous forme de micro particules. Donc, on va les retrouver très vite dans les eaux de lavage.
Voilà. Et quand vous disiez que le plastique envahit nos vies, voilà, l'exemple encore du textile est très marquant. Merci Nathalie Gontard. On suivra vos recherches pour l'INRA sur ces emballages alimentaires de demain qu'on espère plus nombreux. Hélène de Vestel, si on veut suivre un petit peu votre modèle vertueux d'action, on peut aller sur le site de votre entreprise, Sensibilisation Zéro Déchet,
Edeni.fr, donc comme l'Eden ici, E-D-E-N-I. Et puis sur tous les réseaux sociaux, on est présent. Et puis on a une chaîne YouTube aussi. Donc avec plaisir pour vous revoir.
Merci.
Dans un bootcamp.
Merci beaucoup, Hélène de Vestel. Ma chère Julie, on se retrouve lundi, le temps d'un petit week-end. Vous portez bien avec nos amis de la matinale Bernard Porrette et tous les programmes qui vous sont offerts. Merci à Chanel Petit, à Naïma Benchéman, à Sarah Cruz, à Jean-François Bussière, à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Plaisir de vous avoir au quotidien, chers amis.
À lundi.